Le dévoilement de Dieu numéro 190. Le soi-disant chrétien. 3 janvier 2021. Pasteur Brian Kozurek. Qui Esther se Melchizedek 21 février 1965 S-140-141-60. Maintenant, remarquez encore. Il n'y a que 3 races des gens. Vous m'avez entendu dire que j'étais un ségrégationniste. Je le suis. Tous les chrétiens sont des ségrégationnistes, non pas la ségrégation de couleur, mais la ségrégation d'esprit. La couleur de la peau d'une personne n'a rien à voir. Il est Esther un fils de Dieu par naissance. Mais un chrétien, Dieu a dit, séparez-moi, sortez du milieu d'eux et ainsi de suite. Il est Esther un ségrégationniste de la souillure. Le juste du faux. Actes 26, 27-29. Crois-tu au prophète? Roi Agrippa, je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Prions. Que tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, deveniez comme moi, à l'exception de ces liens, oh, quelle déclaration! Oh, quel désir remplit l'âme de ceux qui aiment Dieu! Vous savez, vous avez besoin de plus qu'une eau de baptême pour entrer dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Vous devez être baptisé de l'Esprit de Dieu. Au paragraphe 273 de la prédication, le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, il dit, vous voulez savoir ce qu'Esther la porte? Ou Esther ce que Dieu a placé son nom? En Jésus. Comment entrez-vous en son nom? Comment y entrez-vous? En y étant baptisé. Par l'eau? Par l'esprit. Un seul Seigneur, une seule foi, et un seul baptême. C'est Esther le baptême du Saint-Esprit. L'eau du baptême vous introduit dans la communion avec les gens que vous avez reconnus, avoir accepté, Christ. C'est Esther la vérité. Mais c'est Esther le baptême de l'Esprit. Je peux invoquer le nom de Jésus sur vous et vous baptiser. Cela Néhémie l'accomplit pas. Mais une fois que le Saint-Esprit réellement, parole authentique, entre en vous la parole, Jésus, alors, frère, le message n'est plus un secret pour vous. Vous le connaissez, frère, il est complètement étalé devant vous. Ainsi, nous voyons ici, frère Branham établir, la différence entre le fait d'être baptisé d'eau, d'une part et le fait d'être baptisé de l'Esprit de Dieu, d'autre part, car quand vous êtes baptisé d'eau, cela ouvre simplement la porte à la communion parmi les croyants, mais quand vous êtes baptisé de l'Esprit de Dieu, ce qu'il appelle Esther la parole de Dieu authentique, entrant en vous et prenant le dessus sur votre vie. L'Esprit de Dieu, par sa parole vous vivifie dans l'âge dans lequel vous vivez le message n'Esther plus un secret, mais il Esther complètement dévoilé devant vos yeux. C'est Esther ce qu'il a dit. Mais pourquoi Néhémie le voyons-nous pas partout dans ce message? Nous savons que selon 1 Pierre 1, 23 que nous sommes nés de nouveau de la parole de Dieu, laquelle est une semence incorruptible. La nouvelle naissance alors, n'est pas juste une expérience religieuse, mais c'est la parole de Dieu, entrant dans votre vie et vous vivifiant au message, pour le jour dans lequel vous vivez. Non pas juste vivifié au message, mais vivifié au rendu vivant au message de cette heure, qui est Esther Dieu, lui-même, descendu et il est Esther milieu de son peuple et il est Esther ici, préparant son peuple à l'enlèvement. Et si vous n'êtes pas vivifié par cela, vous demeurez dans vos péchés. Maintenant, il y en a beaucoup qui ont entendu le cri de minuit pour se préparer. Nous savons que selon Matthieu 25, qu'à la fois les vierges sages et les vierges folles entendirent le même cri de minuit, et ce cri de minuit était « voici l'époux ». Et le mot « voici » signifie « regardez et voyez ». Ainsi, le cri de minuit, qui était une voix forte, c'était un cri « regardez et voyez », celui qui est ici. Mais je veux que vous reteniez ceci, que les sages s'étaient préparés pour regarder et voir, parce qu'elles avaient de l'huile, qui représente le Saint-Esprit, dans leur vase, pendant que les autres n'en possédaient pas. Elles étaient si préoccupées par les soucis de ce monde, cherchant l'argent, etc. Et ainsi, négligeant de préparer un peuple pour le Seigneur. Ainsi, prenons nos Bibles dans Matthieu 25 et lisons. Matthieu 25:1-13. Alors le royaume des cieux serait semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Maintenant, à ce niveau, nous n'y voyons pas encore la différence entre ces vierges. Elles sont toutes considérées vierges, ce qui signifie qu'elles n'étaient pas sorties avec des hommes et qu'elles n'avaient pas été engrossées par les dogmes et credos des hommes. Elles avaient toutes des lampes, ce qui signifie qu'elles avaient toutes des Bibles, parce qu'elles ont toutes pris leurs lampes quand elles sont allées voir celui qu'on avait dit qu'il était là. Maintenant, nous savons que selon Marc 4:14 et 1 Pierre 1:23, qu'une semence Esther utilisée comme un type de la parole, laquelle Esther aussi appelée une semence, parce qu'elle contient la vie. Dieu a une parole, qui Esther sa semence et le diable a sa parole, qui Esther aussi une semence. Et comme ces vierges sont appelées vierges, elles sont un type de l'Église, qui n'a pas été touchée par les credos et dogmes des hommes. Ainsi, alors, ces 10 vierges, qui sont des vierges en fait, n'avaient pas été corrompues par la semence ou la doctrine de l'homme. Et aussi, je veux que vous sachiez que toutes les 10 avaient des lampes. Maintenant, dans Psaume 119:105, nous lisons « Ta parole Esther une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Ainsi, nous voyons que ces vierges étaient des lectrices de la Bible. Mais souvenez-vous qu'une femme dans la Bible typifie toujours l'Église. Ainsi, nous voyons que ces 10 vierges représentent l'Église de Dieu, dans sa pureté, sans un credo humain parmi eux. Il n'est mis croit que cette Bible. Maintenant, lisons. De 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Finalement, c'est au verset 2 que nous voyons qu'il y a une distinction faite entre ces 10 vierges. Jésus nous dit que certaines étaient considérées comme sages, pendant que d'autres étaient folles. Maintenant, écoutez. Tous les deux avaient entendu le même message, mais les unes étaient sages, parce qu'elles avaient de l'huile dans leur vase. Maintenant, ce mot sage que Jésus utilise ici, c'est le mot grec, phronimo, qui signifie être prudent ou sensible au sens pratique. Nous le voyons utiliser le même mot dans Matthieu 7:24-27. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, en d'autres termes, les pratiques seraient semblables à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée, sa fondation, sur le roc. Et nous savons que ce roc, c'est la révélation, Et Paul nous dit qu'il n'y a pas une autre fondation qui peut être placée que celle qu'il a été, et c'est Christ. Et nous continuons à lire, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et Néhémie les met pas en pratique, en d'autres termes, Néhémie les pratique pas, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Vous remarquerez ici qu'il n'a pas de fondation, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande. Dans cette parabole, nous voyons que les sages sont celles qui n'écoutent pas seulement, mais mettent en action ce qu'elles entendent. C'est considéré comme la chose prudente et sensible à faire. Et certainement que nous voyons que les folles sont aussi celles qui écoutent, mais Néhémie mettent pas en pratique, et parce qu'elles Néhémie mettent pas en pratique ce qu'elles entendent, elles Néhémie sont pas considérées comme étant sages et prudentes, parce qu'elles pouvaient agir et sauver leur maison, mais Néhémie le firent pas, et ainsi, leurs maisons furent détruites. Oh! Combien des croyants aujourd'hui observent leurs enfants prendre le mauvais chemin, et sont conduits vers la destruction seulement, parce qu'ils n'avaient pas appliqué le signe. Vos enfants sont votre héritage, et vous avez été placé comme administrateur sur cet héritage. Ainsi, vous jugerez sur ce que vous faites de votre leadership. Frère Branham dit, cela Néhémie vous servira à rien. Jusqu'à ce que vous Néhémie l'appliquiez, il doit être appliqué. Et cela signifie, cela doit être mis en service, sinon il Néhémie vous servira à rien. Maintenant, la seule différence entre les sages et les folles, est que les unes ont leur fondation bâtie sur la révélation de Jésus-Christ, tandis que les autres n'en ont pas. Mais les mêmes vents de doctrine soufflent sur tous les deux, et elles étaient toutes deux sujettes à la même pluie et le même vent et la même inondation dont Esaïe parle dans Esaïe 59, 19. Nous avertit que, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Mais la chose que je veux vous faire remarquer, est que les mêmes épreuves viennent sur les deux, les sages et les folles, de même, mais les vierges sages Néhémie failliront pas pendant ces temps, parce qu'elles ont une fondation bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. L'Église catholique et le gouvernement confisqueront un jour vos biens, ils prendront vos maisons et vos voitures et votre possession, mais Néhémie peuvent ôter la révélation de Jésus-Christ de vous. Sester scellé en vous par le Saint-Esprit, lui-même. Dans Luc 22, 34-36, nous lisons, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs Néhémie s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, les soucis et les appréhensions, au sujet de ce qui pourra arriver et que ce jour Néhémie vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Et ensuite dans Luc 14, 33, Jésus a dit, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous Néhémie renonce pas à tout ce qu'il possède Néhémie peut être mon disciple. » Maintenant, ce sont des paroles dures de notre Seigneur, mais 99% de renonciation Néhémie ne l'arrangera pas. Il faut la totalité ou rien. Soit vous êtes à l'intérieur, soit vous êtes à l'extérieur. Il dit, celui qui n'estère pas avec moi, estère contre moi. Et parce qu'il Néhémie sont ni chaud, ni froid, je les vomirai de ma bouche. Maintenant, le jeune homme riche pratiquait tous les commandements de Dieu. Pourtant quand le moment arriva, de tout abandonner, afin qu'il puisse s'abandonner complètement à Christ. Il n'a pas pu se séparer de ses biens matériels. Il l'a presque fait. Il était un soi-disant chrétien. Presque. Mais une parole de moins, c'est-à-dire le royaume de Satan. Je vous ai montré, la semaine dernière, que Paul dit, si nous parlons de nous-mêmes, ou qu'un ange descende du ciel, prêchez un autre évangile que ce que je vous ai enseigné, qu'il soit maudit. Maintenant, cela inclut l'ange d'Apocalypse 10, 1 aussi, de même que l'ange terrestre ou le messager d'Apocalypse 10, 7. Et cela signifie que tous les deux, à la fois, l'ange céleste, aussi bien que l'ange terrestre de l'oméga, Néhémie disait que ce qui fut dit dans l'alpha. Vous dites, voulez-vous dire que Dieu était soumis à l'évangile de Paul? C'est correct. Parce que qui a donné cet évangile à Paul? Le même ange céleste qu'il a aussi donné à William Branham. Ainsi, quand Dieu est descendu dans 1 Thessaloniciens 4, avec un cri, cela doit être la même voix qui a parlé à Paul et il devait dire la même chose. Sinon, il n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement. Raison pour laquelle la semaine passée, j'ai insisté sur le fait de Néhémie pas élever un prophète au-dessus d'un autre, car celui qui ajoute au livre passera par la tribulation, et celui qui retranche un mot du livre verra son nom effacé du livre de vie de l'agneau. Ainsi, soyez attentifs à tout ce que Paul dit. Et si Paul a prêché un quintuple ministère, alors vous devez prêcher la même chose, sinon, vous devez vous préparer à être maudit. Et si Paul a prêché la parousie de Christ, alors vous le devez aussi, ou alors préparez-vous à la malédiction. Maintenant, concernant le jeune homme riche, la Bible nous dit même que Jésus l'a beaucoup aimé, mais plus loin, Jésus nous raconte l'histoire de comment ce jeune leader était mort et s'est retrouvé en enfer, et demanda à Abraham d'envoyer un mendiant, du nom de Lazare, avec une goutte d'eau, pour étancher sa soif. Élevant ses yeux de l'enfer, il a plaidé auprès d'Abraham d'envoyer quelqu'un afin d'avertir ses frères. Mais Abraham dit, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts, ils ne le croiront pas. Et je vous dis ce matin, qu'il y en a un, qui a été ressuscité d'entre les morts et se tient au milieu de vous aujourd'hui et pourtant, vous ne le croyez pas. Pourquoi? Parce que vous, Néhémie, croyez que le ministère de la parousie de Christ est ici en 7 heures. Maintenant, c'était le roi d'Agrippa qui a dit à Paul, « Tu m'as presque persuadé d'être un chrétien. Combien des soi-disant chrétiens y aura-t-il en ce jour-là? Combien des soi-disant chrétiens avons-nous autour du message? Combien des soi-disant chrétiens passeront-ils par la tribulation? Parce qu'ils n'étaient que des soi-disant chrétiens. Ils étaient presque là, mais ils n'ont pas atteint le but. Combien ici, ce matin et ceux qui n'aiment sont pas ici ce matin, qui se retrouvent dans cette catégorie des soi-disant chrétiens, n'aiment participeront pas à l'enlèvement. Le soi-disant n'aiment vous servira à rien. Quand les chrétiens totalement abandonnés et révélés seront pris de ce corps pestiféré dans un enlèvement. Tu m'as presque convaincu. Ils diront tu m'avais presque persuadé. À quoi ont servi les paroles d'Agrippa, quand il a levé ses yeux, en enfer et que ses paroles n'aimées faisaient que l'écho, dans ses oreilles? Paul, tu m'as presque persuadé d'être un chrétien. Et pourtant, nous devons nous poser la question, qu'est-ce ce qu'un soi-disant chrétien est-il? Et si je devais vous donner la réponse, beaucoup d'entre vous tomberont à genoux, ayant l'horreur de la tondeuse, parce que même, nous qui prétendons croire ce message, de toute notre pensée, semblerait être, si nous devons savoir, ce qu'un soi-disant chrétien est. Jésus a défini un chrétien soi-disant, quand il a posé au jeune homme riche, s'il obéissait aux 10 commandements et celui-ci a répondu, qu'il y croyait et les pratiquait tous. Un soi-disant chrétien croit en un seul Dieu et n'a rien dans sa vie, pas d'idole, ni des jouets qu'il adore, et il croit au véritable seul Dieu. Deuxièmement, le soi-disant chrétien honore Dieu en honorant son sabbat. Il n'y travaille pas le sabbat. Il honore le jour de Dieu. Le soi-disant chrétien n'adorera pas une image gravée, comme sa voiture, sa maison, son travail, ou le dieu d'argent, Greenback God. Néhémie prononce le nom de Dieu, en vain. Il le fait avec un but dans sa pensée, soit en adorant Dieu par son nom ou en enseignant les autres à faire de même. Le soi-disant chrétien honore son père et sa mère, et le soi-disant chrétien Néhémie ment pas, ni Néhémie vole, ni Néhémie tue, ni Néhémie commet adultère, ni Néhémie rend de faux témoignages contre son voisin, ni Néhémie convoite ce que possède son voisin. Le soi-disant chrétien qui était le jeune homme riche, fit toutes ces choses et pourtant, il était presque un chrétien, mais Esther restait en deçà. L'apôtre Paul nous parle davantage de ce soi-disant chrétien. Il dit qu'il a une forme de piété. Et le sixième messager, Jonah, et cela dit, le soi-disant chrétien Néhémie fait rien de ce que l'Évangile interdit. Il Néhémie prend pas le nom de Dieu en vain, il Néhémie bénit ni Néhémie maudit, il Néhémie jure pas du tout, mais sa communication à Esther, oui, oui, non, non. Il Néhémie profane pas le jour du Seigneur, ni Néhémie laisse pas qu'il soit profané, même par l'étranger qui est Esther chez lui. Non seulement qu'il évite tout adultère et fornication, mais toute parole, ou regard, qui le pousse directement ou indirectement, à des choses, telles que la télévision et les films. Même toutes les paroles vaines, sont observées et il s'abstient de la médisance, du cafardage, de mauvais discours, et de tout discours fou et plaisanterie, qui n'édifie pas et qui en conséquence, attriste le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellé, jusqu'au jour de la rédemption. Le soi-disant chrétien s'abstient des boissons fortes, de réjouissance et de la gourmandise. Il évite en lui les mensonges, tout conflit, et contention, continuellement attaché à une vie paisible avec tous les hommes. S'il a de la peine en lui-même, il n'aimait se venge pas, ni Néhémie rend le mal acquis pour le mal acquis. Il n'estère pas un méchant, ni bagarreur, ni moqueur, des fautes ou des infirmités de son voisin. Il Néhémie fera pas le mal acquis volontairement, Néhémie blessera, ou n'attristera personne, mais en toute chose, il agit et parle selon la règle dorée. Tout ce que tu fais pour toi-même, fais-le aussi aux autres. En faisant le bien, il Néhémie se contente pas de ce qui est Esther moins cher, et offre facilement la gentillesse, mais souffre et travaille pour le gain de plusieurs, pour qu'en tout, il puisse aider quelqu'un. Malgré les peines et la douleur, tout ce que sa main trouve à faire, il le fait en toute conscience. Que cela soit pour ses amis ou ses ennemis, pour le bien ou pour le mal acquis. Il n'estère pas paresse en ceci ou toute autre affaire. Comme il a de l'opportunité, il accomplit toutes sortes de biens à tous les hommes. Il réprimande l'ignorant, réconforte les affligés, travaille pour réveiller ceux qui dorment, et il fréquente constamment la maison de Dieu, aussi bien qu'il remue ceux qui sont sauvés par la foi. Et quand il s'approche de la table du Seigneur, ce n'estère pas avec légèreté, ni avec un comportement imprudent, mais avec une attitude, un geste et une conduite qui n'expriment rien d'autre, si ce n'estère, Dieu ait pitié de moi, un pécheur. À ceci, ajoutez le dévouement vers sa famille, et le temps de prière et d'adoration, comme une famille. Maintenant, avec toutes ces choses dont nous avons parlé, lesquelles sont des attributs d'un soi-disant chrétien, il y en a un de plus et c'est la sincérité. Par la sincérité, je veux dire, un principe réel et interne de la religion, d'où proviennent toutes ces actions extérieures. Et en effet, si nous n'avons pas ceci, nous n'avons même pas une honnêteté païenne. Car même le païen, le plus misérable s'abstiendra de faire des mauvaises choses, pour éviter la punition. Si alors, l'homme fait toutes choses pour éviter la punition ou d'éviter de perdre des amis, ou sa réputation, ou même son profit, et si vous faites tant de bien et faites tant de grâce pour les autres, et pourtant nous n'aimons pourrions dire, que cet homme n'a jamais été qu'un soi-disant chrétien, si ces motifs sont ainsi, par conséquent, la sincérité, est-ce nécessairement implicite en étant presque un chrétien, une réelle conception de servir Dieu, un cœur désireux de faire sa volonté, un désir de plaire à Dieu, en toute chose, en toute conversation, dans toutes ses actions, dans tout ce qu'il fait, ou qui demeure non accompli. Cette conception, selon laquelle un homme peut être presque un chrétien, traverse le ténor de sa vie. C'est un principe mobile, à la fois dans l'action, son abstention du mal acquis, et sa pratique des ordonnances de Dieu. Pourtant, vous pourriez demander, comment cela pourrait-il être possible, qu'une personne puisse aller aussi loin et n'être considérée par Jésus-Christ que comme un soi-disant chrétien? Que peut-on avoir de plus pour être un chrétien? Et je réponds, oui, il est possible d'aller plus loin que d'être un soi-disant chrétien. Vous posez la question, que faut-il de plus pour être chrétien? Et je réponds, premièrement, l'amour de Dieu. Car, ainsi dit sa parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toutes tes pensées et avec toute ta force. Un tel amour absorbe tout le cœur, et ôte toute affection, et remplit toute capacité de l'âme, et emploie la plus grande étendue de ses facultés. Celui qui aime ainsi le Seigneur son Dieu, son esprit se réjouira continuellement dans le Dieu de son salut. Son cœur crie toujours, qui ai-je au ciel, à part toi, et il n'y a personne sur terre, que je désire, à part toi. Et en effet, qu'est-ce qu'un authentique chrétien peut désirer, en dehors de Dieu, rien de ce monde ou des choses de ce monde, car nous sommes crucifiés au monde, et le monde est crucifié pour moi. Deuxièmement, la chose qui fait que l'on soit un chrétien authentique, c'est l'amour de Dieu, qui avait été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour d'un chrétien véritable, Néhémie connaît pas de limite. Car Jésus nous a dit, tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Si l'on pose la question, qui est votre prochain? Nous répondrons, tout homme sur la terre, chacun de ses enfants, il est le père des esprits de toute chair. Et ceci implique même nos ennemis, car Jésus a dit, nous devons aimer ceux qui nous haïssent. Et troisièmement, nous n'aimons pouvons pas abandonner la foi, qui est la révélation. Car sans elle, personne n'aimait peut connaître le Seigneur, et ainsi, sans la révélation, nous n'émisserons que des soi-disant chrétiens, pas mieux que gens du vieux sacrificateur ou des cœurs saignants libéraux. Car la révélation est ce qui sépare la brebis des boucs et les vierges sages, des vierges folles. La révélation est la clé, qui fut donnée à Pierre, Est-ce Esther la seule chose qui vient de Dieu? À travers ses prophètes. Et une fois que cela nous Esther révélé, nous en devenons les seuls propriétaires. Le transfert de titre s'accomplit et nous possédons ce qui a été révélé et cela nous appartient et à nos enfants. Maintenant, en revenant à notre étude sur les vierges sages et folles, nous trouvons dans Matthieu 10, 16, que Jésus nous avertit, au sujet de cette importance, qu'il place sur le fait d'être sage dans une forme prudente et sensible de la parole. Il dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents, et simples comme les colombes. Il veut que nous soyons sages. Non pas sages, par nous-mêmes, comme Paul dit, Néhémie soyez pas sages, à vos propres yeux. En d'autres termes, nous Néhémie parlons pas de la sagesse pour la sagesse, mais être sage, au sens pratique, au point que cela vous fasse du bien. De nouveau dans Matthieu 24, 41-51. Nous voyons Jésus utiliser ce mot sage dans une autre parabole. Il essaie de nous amener à voir l'importance de pratiquer ce que nous connaissons pour notre avantage dans le sens spirituel de la parole. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir. Il veillera et Néhémie laissera pas percer sa maison. C'est Esther pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est Esther donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais, si Esther un méchant serviteur, qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il Néhémie s'y attend pas et à l'heure qu'il Néhémie connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites, c'est Esther là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Maintenant, c'est Esther très apparent par cette parabole que Jésus nous fait connaître ici, à travers une illustration, qu'il s'attend à ce que nous soyons occupés, à appliquer ce que nous savons, au lieu de rester passifs, insouciants, sans méfiance et comme des fous, pas prêts quand il vient. Il dit, ceux qui n'aiment sont pas prêts. Quand je viens, seront placés à l'extérieur avec les hypocrites, où il y aura des pleurs, des grincements des dents, ce que nous savons être la tribulation. Nous le découvrons juste après que Jésus nous a dit cette parabole. Ensuite il parle de la parabole de cinq vierges sages et de cinq vierges folles. Et ainsi, nous prenons cette parabole des vierges sages et folles au verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, n'aimaient prirent point d'huile avec elles. Maintenant, à quoi sert une lampe sans huile pour éclairer dans les ténèbres? Une lampe sans huile, est-elle inutile? Dans Exode 29, 7, nous voyons que l'huile est un type du Saint-Esprit ou de l'onction de Dieu. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête, et tu l'oindras. Nous voyons encore l'huile être utilisée dans Lévitique 8, 10, 12. Moïse prit l'huile d'onction, éloignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et le sanctifia. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, éloignit, afin de la sanctifier. Comme nous savons que cette huile représente l'onction de l'Esprit de Dieu, dans l'Écriture, nous pouvons alors voir que la lampe sans huile représente la parole de Dieu, sans une onction de l'Esprit de Dieu, dessus. Ainsi, revenons à la condition de l'Église ici dans Matthieu 25. Et considérons à nouveau, le verset 4, mais les sages prirent, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. En d'autres termes, la parole était ointe pour eux, c'est Esther qui fait la différence dans le monde, parce que ceux pour qui, la parole Esther ointe, c'est Esther une parole vivante, alors que pour les autres, ce n'est Esther pas une parole vivante, mais un tas des règles et des régulations, qu'ils doivent suivre. Dans Esaïe 28, 9-13, nous voyons ce qui arrive à ceux qui écoutent ce message, mais ne le comprennent pas. Qui essaie d'enseigner? À qui enseigne-t-il son message? Aux enfants que l'on vient de sevrer du lait. À ceux que l'on vient de retirer des seins? Car Esther, fait, règle sur règle, un peu ici, un peu là. C'est Esther alors très bien, avec des lèvres étrangères et des langues étranges, que Dieu parlera à ce peuple. À qui il a dit, c'est Esther le lieu du repos, que les fatigués s'y reposent et c'est Esther le lieu du repos, mais ils n'écouteront pas. Ainsi, alors la parole du Seigneur deviendra pour eux, fait, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Ainsi, ils iront et tomberont en arrière, seront blessés, pris au piège et capturés. Et ainsi, nous voyons que les vierges folles qui n'avaient pas l'onction de Dieu, sur la parole, quand elles ont compris que c'était tard, elles sont allées vers ceux qui en vendaient. Mais Néhémie dit pas qu'elles purent en obtenir, afin de reconnaître celui qui était ici. Ainsi, il dit juste qu'elles sont allées vers ceux qui en vendaient. Vendre quoi? Des lampes? Des Bibles? La parole de Dieu? Ainsi, lisons et voyons ce qui leur arrive. Matthieu 25, 5-6 comme l'époux tardait. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Vous voyez? Le message, c'est Esther toujours. Sortez. Pour celui qui déclare que le message, n'Esther pas interne, il est Esther au dehors disant, sortez du milieu d'eux comme nous voyons dans Apocalypse 3, 20, où il se tient à l'extérieur et il frappe. Et il dit, sortez dans Jacques 5, 9, où il nous Esther dit que le juge se tient à la porte, frappant, pour que nous puissions sortir. Et dans 2 Corinthiens 6, 17, où il nous Esther dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Et aussi dans Apocalypse 18, 4, où il nous Esther dit de sortir du milieu d'elle, afin de Néhémie pas participer à ses fléaux. Le message Esther toujours, sortez. Maintenant, continuons avec la parabole de Jésus, des vierges au verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Maintenant, je veux que vous remarquiez, elles ont toutes entendu le cri de minuit. Esther sevrait. Ainsi, cela devait être assez fort. Esther sevrait. Et ce mot cri ici signifie de parler très fort ou avec une voix forte. Ce qui Esther un cri. Esther sevrait. Ainsi, nous pouvons dire que toutes les vierges, à la fois sages et folles, entendirent le cri. Qui Esther le message? Et c'était le message du cri? Voici, ce qui signifie regarder et voyez, l'époux se tient ici, frappant. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voici, le juge se tient à la porte. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont éteintes. Donnez-nous de votre compréhension ou de la parole. Parce que nous n'y comprenons pas. Ce qu'Esther le crie? 9-10. Les sages répondirent, non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entrer avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Remarquez, que celles qui sont allées pour acheter, n'eurent pas d'huile. Ainsi, que vendait-il? Certainement des lampes. Quand vous allez pour acheter une lampe, elle n'est pas remplie, vous devez la remplir, et remarquez que l'huile n'était pas dans la lampe, c'était dans leur vase. Je veux que vous remarquiez quelque chose ici. Pendant que celles qui étaient considérées comme folles, s'en allèrent pour essayer de trouver une certaine onction, dans le but de comprendre ce cri de minuit, les autres sont allées au mariage dans la présence de l'époux. Comme il Esther dit, elles sont entrées avec lui. Elles comprirent qui était là, qui criait avec une voix forte, un cri. Elles savaient que l'époux était sur la scène et que l'union spirituelle de l'épouse et de l'époux devait s'accomplir. Mais celles, qui n'avaient pas d'onction de la parole, sont allées vers ceux qui en vendaient et elles n'émirent sur jamais le Saint-Esprit. J'espère que vous pourrez lire entre les lignes, mes frères et sœurs. Parce que les vendeurs n'avaient rien à voir avec la présence de l'époux, qui se tenait à l'extérieur, appelant. Elles n'y savaient rien de sa présence, sinon, elles seraient aussi là, pour le recevoir. Maintenant, Dieu interprète sa parole en l'accomplissant. Et je pense que vous pouvez voir l'interprétation de cette parole. Parce que c'est Esther si claire. 11 Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Elles sont venues, mais n'Esther pas dit, qu'elles avaient reçu de l'huile. Elles sont allées auprès de ceux qui en vendaient, mais n'a pas été dit, qu'elles en avaient reçu. C'est Esther comme le fait d'aller auprès des vendeurs des lampes, et la Bible Esther comme une lampe, mais quand vous vous rendez chez les vendeurs des lampes, ils n'y vendent pas d'huile. Ainsi, à quoi servira la lampe? Et frères et sœurs, à quoi sert votre Bible ou vos bandes sans le Saint-Esprit? Vous pouvez appuyer et jouer, toute la journée mais sans le Saint-Esprit, sans l'huile, il n'y aura pas de lumière en provenance de ces bandes. Et vous n'y comprendrez pas, qui Esther descendue en 7 heures. Ensuite, il Esther dit que les autres sont revenus, à l'endroit où elles avaient entendu le cri de minuit, le message, mais c'était alors tard, elles ont manqué celui qui Esther descendu, elles n'ont jamais reconnu, qui était celui qui frappait. Parce qu'elles n'étaient pas prêtes. La parole n'était pas ointe pour elles et elles ont manqué la révélation de Jésus-Christ. Elles ont manqué la parousie de Christ et les 84 signes et événements qui y sont associés. Et Jésus nous dit qu'elles ont été laissées derrière pour la période de la tribulation. 12 000 et répondit, je vous le dis en vérité, je n'ai mis vous connais pas. Ce mot connaître ici, Esther un mot grec, qui signifie connaître pleinement mais dans le contexte que Jésus l'utilise, cela voudrait dire, je n'ai jamais réellement eu de relation consommée avec vous et ainsi, comme le dit, le docteur Royer, de Wharton, Illinois, qui fut considéré à un moment, comme le plus grand étudiant du grec aux USA. La phrase devait être traduite comme suit, je vous ai connu comme ma femme, mais je n'ai aimé vous connais plus comme ma femme. En d'autres termes, nous n'avons pas de relation consommée ensemble, il n'y a jamais d'union spirituelle entre nous, et ainsi, je n'ai aimé vous ai jamais réellement connu, dans un cadre conjugal. Finalement, Nous entendons Jésus nous donnant des messages d'avertissement au sujet de cette parabole et ce qu'elle signifie au verset 13. Veillez donc, puisque vous n'avez ni savez ni le jour, ni l'heure. Et certainement, que ce mot veiller signifie avoir un œil vigilant, ou une alternance spirituelle pour la parousie du Fils de l'homme. Parce que si vous n'avez ni le faites pas, vous n'avez ni saurez pas quand il vient. Et souvenez-vous que si ce cri de minuit demeure un secret pour vous, alors cela n'est ni vous a pas été révélé, et aussi longtemps que cela n'est ni vous a pas été révélé, alors cela n'est ni vous appartient pas encore. Car nous lisons dans Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Remarquez que frère Branham dit, quand vous avez véritablement été baptisé du Saint-Esprit, alors le message n'est-ce plus un mystère pour vous. Ce n'est-ce plus un secret pour vous. Vous le savez. Tout Esther est allé devant vous. Je n'ai mis pense que vous aurez besoin d'une personne pour vous mettre à côté et vous parler au sujet de payer la dîme ou le besoin d'être dans l'église quand les portes sont ouvertes. Vous serez automatiquement là quand les portes seront ouvertes parce que c'est Esther la vie pour vous et c'est Esther une réalité pour vous parce que Dieu interprète sa parole en l'accomplissant. Parce que vous l'aimez tant, que vous n'avez mis pouvez pas en avoir assez de lui. Et comme c'est Esther réel, vous aurez faim et soif, d'avoir plus de lui, que vous le pouvez. Vous n'aurez pas besoin de quelqu'un pour vous tenir la main, et vous bercer à travers. Parce que vous êtes prêt, que vous mouriez ou viviez, faire naufrage ou se noyer. Qu'importe que cela soit nécessaire pour sa parole. Vous voyez, c'est Esther ce qu'Esther la nouvelle naissance. Ce n'est-ce pas juste venir à la communion. C'est Esther le fait de naître de nouveau, comme un nouvel individu, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous n'y vivez pas pour votre travail. Vous n'y vivez pas pour vos vacances. Vous n'y vivez pas pour votre nouvelle voiture, comme le fait le reste du monde. Vous vivez parce que Christ vit en vous. Vous n'avez aucun goût pour les choses du monde. Je n'y dis pas que certaines de ces choses sont mauvaises à avoir, mais en réalité, elles n'y peuvent pas satisfaire. Et il n'y a qu'une chose qui puisse satisfaire, c'est Esther de le connaître lui. En clôturant, laissez-moi vous apprendre un cantique que nous avions l'habitude de chanter ici à l'église au sujet de cette faim et soif de lui. Seigneur, j'aimerais te connaître davantage juste au moment où je sens que j'ai été dans ma boue. Juste au moment où je sens que mes pensées ont été achetées par la richesse mondaine. C'est Esther alors que la brise commence à souffler, je reconnais l'appel de l'esprit, et toutes mes errances mondaines disparaissent dans son amour. Seigneur, j'aimerais te connaître davantage, au plus profond de mon âme, je veux te connaître, Seigneur, je veux te connaître. De sentir ton cœur et connaître tes pensées, regarder dans tes paroles, qui remue au-dedans de moi, les cris qui déclarent que je veux te connaître Seigneur, je veux te connaître davantage. Quand, mes besoins quotidiens, naturellement, emportent la vie et le chant. Et quand mon cœur saigne, de sensibilité, il s'en va. J'ai couru la course, mais j'ai défini mon propre rythme, et fis face à une âme brisée. Mais les bras doux de Jésus, me rassasient complètement. Seigneur, je veux te connaître davantage, au plus profond de mon âme, je veux te connaître, Seigneur, je veux te connaître, et je rendrai mon dernier souffle pour te connaître dans ta mort et ta résurrection. Seigneur, je veux te connaître davantage. Seigneur, je veux te connaître davantage. Oh, frères et sœurs, le connaître seulement dans la puissance de sa résurrection, qu'il vit aujourd'hui, et qu'il Esther le même hier, de même, il Esther aujourd'hui et pour toujours. Jésus-Christ, l'amour de nos âmes. Et entrer juste dans la communion, Néhémie le fera pas. Nous devons entrer par la porte et Christ Esther cette porte, et il Esther la parole pour l'heure. Venez en lui. Videz-vous de tout ce que vous vouliez être et devenez ce qu'il veut que vous soyez. Et quelle Esther l'évidence qu'il vous a rempli de son esprit, que vous avez été baptisé de l'Esprit du Dieu vivant? Quand vous avez véritablement été baptisé du Saint-Esprit, alors le message n'est-ce plus un mystère pour vous. Ce n'est-ce plus un secret pour vous. Vous le savez, tout Esther est allé devant vous. Et si ce n'est plus un mystère pour vous, alors cela vous a été révélé. Et si cela vous est révélé, alors cela vous appartient. Vous en êtes un possesseur, comme nous le lisons dans Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Prions. Ce sermon a été traduit en langue française par le frère Bill Venga, billvenga@yahoo.fr. C. Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA.